Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête, j'ai fini au mental. Ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases? Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir? Est-il possible de le définir? Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Aujourd'hui, je parle avec Manon Bohard et ensemble, nous allons explorer le monde mystérieux des pensées parasites et la gestion des émotions. Avec plusieurs succès en ultra et notamment une TDS et même un titre de vice-championne du monde de trail long, Manon a également un historique plus douloureux avec l'UTMB qui lui résiste encore et toujours. Et sans plus attendre, Manon Bohard. Manon, j'avais une première question pour toi, mais en réalité, à l'instant, tu viens de me dire, ce matin j'ai fait une grosse séance, je suis absolument pas préparé à ce que tu vas me faire subir pendant cette interview. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver sur une course absolument pas préparée, même légèrement encore un petit peu ivre-morte de la veille, et finalement d'avoir des jambes de feu, et au contraire, d'aller sur une course surpréparée, surmotivée, prête à bouffer la terre entière et à passer totalement à côté de ta course? Est-ce que tu connais cette sensation?
Oh oui. Ouais, et d'ailleurs, pour la petite histoire, je pense que moi, plus je prends les choses avec légèreté, légèreté à mon niveau, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez, perfectionniste, un peu rigide, un peu, mais je pense qu'on l'est tous un petit peu quand on veut performer. Plus je prends les choses avec sans attendre juste le fait de vivre les expériences et puis faire face aux imprévus comme ils viennent et compagnie, et plus ça se passe magnifiquement bien pour moi. Alors l'année dernière, en préparation pour les mondiaux en Thaïlande, je fais une course un petit peu locale du coin, un 40 km, j'y vais avec 25 heures d'entraînement dans la semaine, je mange dans un gîte, il y avait des gens qui faisaient la fête et tout, je commence à boire quelques bières avec eux, bref, le matin, le départ était hyper tôt, donc j'y vais un petit peu à l'arrache, pas du tout avec une petite déjà habituelle, enfin bref, vraiment j'y vais parce que l'idée c'était de finir la semaine avec une course de prépa, une course un peu à bloc avec les cannes rôties quoi. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais une envie, parce que c'était un coin dans le Jura suisse que je connaissais pas du tout, une envie de courir, mais alors des cannes qui me faisaient mal, même à l'échauffement, je me suis dit, oh punaise, ça va être dur. Mais je sais pas ce qui s'est passé, je suis partie, mais ouais, comme une balle, et j'ai pas décéléré. Du début à la fin, et en fait, je gagne au scratch cette course avec 7 minutes d'avance sur le premier homme, et j'ai même pas vu, en fait, les 40 km passer tellement j'étais bien et j'avais juste envie de pousser. Par rapport à tout ce que je t'ai raconté, sur la prépa, sur l'avant-veille et tout, tous mes rituels d'avant-course, le jus que tu fais les jours avant et tout, voilà, rien d'existant par rapport à tout ça. Et puis, à côté de ça, voilà, moi j'ai des rituels avant les courses où j'essaie de dormir parce que j'ai pas un sommeil, on va dire. C'est un petit peu mon point noir avec une vie bien, bien remplie. Donc j'essaie de vraiment faire le job au niveau du sommeil. J'ai vraiment un repas particulier, un petit déj particulier. Je fais toutes mes affaires. Tout est prêt 3 jours avant. j'ai quand même cette pointe de stress qui m'accompagne jusqu'au départ. Enfin, c'est quand même tout est, il y a pas de place pour l'imprévu, tout est organisé, tout ce que je peux contrôler, c'est ultra contrôlé. Et puis bah des fois et souvent, c'est quand c'est quand tout est sous tension, sous contrôle, que ça se passe pas du tout comme le plan avait été imaginé. Ça manque un peu de flexibilité psychologique, tout ça. Hein.
Alors, on ne se connaît pas encore assez. Je vais juste te donner un conseil. Tu sais, c'est un petit peu comme dans les séries américaines où quand il y a un méchant qui se fait arrêter, le flic lui dit « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ce que tu es en train de faire. Là, depuis tout à l'heure, tu vois, ça fait 3 minutes qu'on parle, j'ai déjà pris 3 lignes de notes. Ma vieille, tu vas souffrir. Hein. Aujourd'hui, c'est ta fête. Hein. C'était peut-être la Saint-Valentin hier, mais aujourd'hui, ça va être ta fête.
Oh, bon, pff, ouais, la Saint-Valentin, c'est jamais tous les jours. Non, mais oui, il y a
Mais évidemment que c'est tous les jours la Saint-Valentin. On célèbre l'amour au quotidien.
Exactement.
Dans le sport, évidemment. C'est une évidence. Alors, tu es perfectionniste et rigide. Ça veut dire quoi ?
Ouais, j'ai un côté en tout cas rigide, alors perfectionniste, c'est juste que quand j'ai une idée en tête, peut-être plutôt têtu, mais quand j'ai une idée en tête, il faut vraiment aller au bout de l'idée, au bout du projet, au bout de ce que je me suis mis comme objectif. L'adaptation, elle a mis du temps à venir, maintenant je suis un petit peu plus souple quand même et j'arrive à adapter en fonction du, on va dire, de ce que je peux vivre à travers les signaux que je peux percevoir, si je sens que je suis fatiguée, que le plaisir en finale il est peut-être pas forcément présent comme je l'espérais, enfin voilà, j'arrive à adapter au fur et à mesure avec l'expérience, hein. Mais j'ai vraiment un côté perfectionniste et rigide dans ma vie du quotidien, hein. C'est-à-dire que je suis plutôt dans le contrôle des choses. J'ai peur j'ai peur que les choses m'échappent, j'ai peur que le plan, la ligne de conduite fasse défaut à un moment donné. Enfin, c'est de la réassurance, hein, clairement, de tout. Mais voilà, j'ai un côté quand même un peu rigide à certains égards. Et puis oui, bah, je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste. Hein, je suis dans l'après, je suis tout le temps en train d'analyser l'avant, je suis rarement dans l'instant T en me disant, voilà, vis le truc et on verra bien ce qui se passe. C'est tout le temps l'avant, c'est tout le temps l'après, c'est tout le temps dans l'anticipation et le contrôle un petit peu de ce qui peut arriver. Mais heureusement, ça s'améliore quand même au fur et à mesure des années. Je me sens de plus en plus libre par rapport à ça, parce que j'ai quand même un mari qui est tout le contraire de moi. Je pense que j'ai une éducation déjà qui est comme ça, mais j'ai quand même un mari qui a une éducation complètement différente et qui est là pour le coup, voilà, il sait pas ce qu'il va préparer ce soir, il sait pas ce qu'il va faire demain, et ça c'est quand même assez agréable d'être avec des personnes comme ça quand toi t'es tout le contraire, parce que ça t'apprend aussi que à quoi ça sert ? Quoi ça sert ?
On peut vivre autrement.
Voilà, exactement. De pouvoir trouver un petit peu des points de l'autre pour pouvoir s'assouplir un peu et vivre les choses un petit peu mieux.
Récemment, il y a une citation que j'aime bien ressortir. Je l'ai sortie hier soir d'ailleurs de Fabrice Luchini, que j'ai entendu dans une interview de lui, où il dit « Ça fait 40 ans que je suis en analyse et ça commence à aller un peu mieux. »
Eh ben.
Alors, j'ai lu pas mal d'interviews de toi, là j'ai pris des notes bien entendu, et je relève quand même un sacré paradoxe au fil des interviews et à l'instant de ce que tu viens de me dire. J'ai cette pointe de stress et tout est prévu sous contrôle. Alors c'est quoi cette pointe de stress ? Tu prépares tout, t'as tes rituels, t'es calé, mais pourtant, t'as toujours cette pointe de stress. Quelle est cette pointe de stress ?
Non mais c'est pas du stress, c'est de l'anxiété, hein, c'est pas... Le stress, c'est le...
Ça change juste là un petit peu la forme de la question. Quelle est cette petite pointe d'anxiété ?
Ah bah ça, là, moi, l'analyse,
Tu ne l'as pas encore.
Tu vois, autant Lucchini, il a fait son analyse en 40 ans, autant moi, j'ai encore pas tout.
Toi, tu n'es même pas 40 ans, alors forcément, on ne peut pas en être au même point.
Exactement. Voilà, j'ai 32. J'ai commencé hier l'analyse, donc j'ai 40 ans pour. Moi, je travaille du coup beaucoup là-dessus, hein, sur mon comportement anxieux. Enfin, voilà, cette anxiété qui est un peu. Qui me pourrit pas la vie, hein, parce que ça fait partie de. Voilà, j'ai ce tempérament-là. Après, je le travaille avec un psychologue et préparateur mental du sport depuis une année. Enfin, le rapport un petit peu à ton sport, le rapport à toi, à ton corps, à ton passé, à toi, tous ces liens-là. Et je me rends compte, en fait, que le stress ou les imprévus, ou je les gère plutôt bien. Je suis vraiment, pour le coup, j'ai des forces mentales et comment des ressources, hein, de par aussi les expériences que j'ai vécues, parce que j'ai vécu quand même des belles anecdotes aussi, des beaux imprévus qui peuvent bien déstabiliser, et j'ai fait face et j'arrive à toujours à rebondir. Par contre, donc le stress est plutôt bien géré, c'est plutôt l'anxiété et les pensées envahissantes, hein, les fameuses pensées parasites qui peuvent te faire beaucoup douter. Et j'ai toujours un peu du mal à me dire, bon, bah, attends, t'as quand même accompli ça, tu t'es préparé pour ça, tout ce que t'as fait est fait, enfin, tout ça, c'est acquis, t'as déjà vécu bien plus stressant, bien plus, des périodes bien plus anxiogènes que ça, voilà, on pense aux périodes Covid et compagnie, mais c'est comme si un peu j'oubliais tout ça et j'étais complètement accaparée et envahie par ses pensées, ses émotions de mal faire ou de décevoir. Hein. Je pense que quelque part, il y a la peur de décevoir, alors déjà soi, mais aussi les autres. Quand tu as une famille qui est quand même très attachée au milieu, un papa qui est dans ce milieu-là depuis des années, qui connaît toutes les petits fils, qui se connaît aussi lui très bien, qui te connaît très bien, qui connaît tes capacités et compagnie, un entraîneur qui te fait confiance, des partenaires qui te font confiance et tout, bon, en fait, mine de rien, t'embarques pas mal de monde, en plus de ton mari, de tes collègues, parce qu'en fait, mine de rien, sans que ça soit quelque chose que j'essaie de... Enfin, moi, j'essaie de que le trail prenne une place. C'est une priorité dans mes passions et dans mes priorités secondaires. C'est la priorité. Donc, mine de rien, ça a quand même beaucoup d'importance. Mais du coup, forcément, quand on arrive aux périodes un petit peu charnières où il y a des gros objectifs, tu sais que tu embarques aussi un petit peu du monde avec toi, que tu n'es pas tout seul. Et je pense qu'avant de se décevoir soi, on a aussi très très peur de décevoir les autres, ce qui peut augmenter des fois le pool anxieux, on va dire.
Tu m'as dit.
Il y a des outils pour gérer tout ça, heureusement.
Heureusement. Tu m'as dit, je suis souvent dans l'après, dans l'avant, au lieu d'être dans le ici et maintenant. Tu as un exemple ?
Ouais, ce qui est assez dommage dans le sens où moi je suis diététicienne nutritionniste et je suis spécialisée dans le comportement alimentaire. Donc je fais énormément de pleine conscience et de ici et maintenant et de travail d'instant présent, ancrer les personnes avec qui je travaille. Et je suis bien incapable de le faire pour moi.
C'est normal ça.
Toute ma vie elle est un peu millimétrée. Militaire. Alors un petit peu moins depuis janvier là parce que j'ai enfin fait des vrais choix. Mais jusqu'à présent j'ai toujours fait des faux choix et en fait mes journées elles étaient imbuvables et rythmées de à telle heure il y a ça, après il y a ça, après il y a ça. Il n'y avait pas de place pour l'impro, il n'y avait pas de place pour l'imprévu non plus d'ailleurs, c'était vite vite compliqué. Et maintenant il y a quand même beaucoup plus de temps, c'est plus souple, il y a du temps de récup, il y a du temps de repos mental. Et c'est hyper important, tout ne peut pas tenir dans des journées de 24 heures. Il y a déjà le sommeil qu'on essaie aussi de caler là au milieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon quotidien quand même a été longtemps comme ça. Il fallait toujours accepter, pas dire non, arriver à faire des études et en même temps bosser à côté parce que bah voilà, mes études, je voulais être autonome, je voulais pas que mes parents me payent l'appartement ou l'école ou quoi, enfin vouloir une indépendance alors que personne ne demandait rien. Mais voilà, c'est des traits de caractère que je retrouve aussi beaucoup chez mon père, et je pense que voilà, les chiens font pas des chats, chez ma mère aussi d'ailleurs. J'ai deux parents qui sont quand même hyper réactifs et hyper tout le temps qui remplissent le temps et qui sont quand même assez anxieux aussi l'un et l'autre sans qu'ils le sachent, hein, je pense. Et voilà, j'ai baigné là-dedans avec voilà avec une vie d'aubergiste où il y a des gens à la maison, où c'est le bordel, où c'est le feu, où il faut faire les devoirs là au milieu, et puis en même temps, tu veux aller skier dehors, tu veux aller jouer au bob, tu veux... Donc tu fais tout en même temps, et du coup, tu es tout le temps en train de te créer des apprêts et de revenir à ce que tu étais en train de faire avant, et en fait, t'es pas dans l'instant présent, donc on est conditionné aussi un petit peu par tout ce bagage de vie, hein, de 32 ans de vie, donc j'apprends à m'intéresser à mon passé et à mon conditionnement pour pouvoir trouver un petit peu plus d'équilibre, même si je sais que je passerai pas du côté zen et yoga, attitude et ici et maintenant demain, parce que je suis juste pas comme ça, quoi. Mais bon, si je peux en prendre un petit peu, ça peut m'arranger.
Ça peut pas faire de mal.
Ça peut pas faire de mal, ouais, c'est ça. Exact.
Lors de nos échanges de mails, tu m'as écrit « J'avoue que la partie mentale est pour moi un gros domaine qui, je pense, pour ma part, peut clairement faire défaut et je commence à vraiment travailler. Je parlerai plus de gestion émotionnelle que de mental pur et dur, mais c'est lié. » Fermeture des guillemets. Est-ce que tu peux être plus précis, sachant que tu as déclaré, suite à ta victoire sur la TDS, ouvrez les guillemets, au-delà de l'aspect physique, la TDS m'aura aussi permis de découvrir que l'on peut se doter d'armes et d'outils pour ne pas se laisser envahir par les émotions. Et là encore, j'ai du chemin à faire. » Fermez les guillemets. Très beau jeu de mots. Est-ce que tu peux être plus précise? Parce que j'en reparlerai un petit peu après sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress, etc. Et c'est exactement ça. Toi.
Ouais. Alors, c'est vrai que la TDS qui a été... Le fait est de pouvoir à un moment donné arriver à canaliser ou à mettre de côté une émotion, une grosse excitation ou une grosse satisfaction qui pointe le bout de son nez, on va l'appeler comme ça, mais c'était beaucoup plus fort que ça. Au moment où j'arrive aux ouches et où je vois en fait que j'étais toujours vivante entre guillemets, que j'avais passé, que la course était quasiment passée, que je regarde ma montre, on était au kilomètre 140 et que je vois mon entourage. Alors je vois pas tout mon entourage d'ailleurs, parce qu'il y en a qui s'étaient planqués tellement ils avaient peur de rajouter, enfin il voulait surtout pas en tout cas me troubler, et en fait là je vois mon entraîneur, moi j'avais une grosse banane et mon entraîneur qui était ouais, alors maintenant la dernière partie tu fais ça, puis moi j'étais là, bah tu déconnes là, enfin pourquoi tu vois le plan, on continue le plan quoi, en gros c'était ça, il dit non tu continues, c'est comme ça machin, il me faisait mine de rien laisser paraître, et moi j'étais prête à faire la fête, quoi, à m'arrêter, puis à l'embrasser, quoi, en gros. Et là, en gros, non, tu continues, machin, bidule. Et là, en fait, j'ai pas eu le temps, en tout cas, d'arriver à me dire, t'es devant, quoi. Enfin, c'est... jusqu'à présent, j'étais dans ma course, dans, voilà, là, à tel endroit, tu te sens comment, machin, body scan, tu t'accélères. Enfin, tout le temps, des petits micro-objectifs que je me mets pour éviter, justement... le soupçon d'émotion qui peut transparaître, parce que alors là très vite je perds les pédales quoi. Et là du coup il y a eu un petit moment où c'est comme si l'émotion elle arrivait, elle s'agrippait un petit peu à l'hameçon, et en fait non, mon entraîneur il retire l'hameçon et il me dit tu continues ta route, Il reste encore 8 bornes et c'est pas fini, quoi. Et là, ouais, bon, bah alors hop, je me remets dans mon rythme et tout, je lâche rien. Hop, l'émotion, je la mets de côté, je la pousse un gros coup. Et par contre, c'est là où ça a été terrible, c'est que j'arrive dans Chamonix. Et là, non, bah là, il n'y a plus moyen. Là, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Il y avait une foule, enfin, c'était juste truc de malade, quoi. Et là, un gars qui me suivait en vélo, un gars de l'Orga, il me dit t'as gagné, t'es, voilà, il me le dit. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé, en fait, bah, que j'étais devant, quoi. Et jamais la veille, j'aurais imaginé. Déjà, je m'étais pas du tout mentalisé le fait d'arriver dans Chamonix. Alors moi, c'était mes premières grandes courses, donc là, j'ai pas compris. C'est quoi ce monde-là? Ils prennent l'apéro? Ah non, ils viennent parce que bah t'es voilà, il y a les premiers sont arrivés. Toi, t'es la première femme. Enfin, ils sont là pour vous, quoi. Et puis me dire que j'étais première féminine. Et là, en fait, je sais pas si t'as vu l'arrivée, mais je sais plus à où j'étais. Je voyais pas Ludo, je voyais pas mes parents, je voyais pas mon mari, mon entraîneur, enfin je voyais plus rien. Et j'oublie même de franchir la ligne d'arrivée. C'était bref, je me rappelle même pas en fait avoir passé la ligne, mais j'ai été capable de repousser un peu le moment en fait, le moment fatidique, parce que là si ça m'arrivait aux ouches, j'aurais été capable d'être paralysée ou de faire un trou noir, un flashback, quoi. Un trou noir, ouais. Donc, ouais, c'est moi, quoi. Je suis très émotive et il faut juste arriver à canaliser, à être patient.
Ça, on va en reparler tout à l'heure, parce que l'histoire a montré que tu as reproduit un petit peu ce modèle. Alors, l'exemple là, que tu viens de donner avec ton entraîneur est excellent. Tu as dit également, alors je crois que c'est pour les championnats du monde ou pour Madère, je crois que c'est pour Madère, tu as déclaré sur ce genre de course, on peut y aller avec des ambitions de résultats, mais j'ai du mal à voir la compétition comme ça. Ce n'est pas plus mal étant donné la pression que je me mets. C'est quoi cette pression?
Alors à Madère, c'est assez...
Sachant que tu gagnes en plus à Madère.
Oui, alors c'est une course en fait qui est passée... comme une lettre à la poche, j'ai envie de dire, dans le sens où j'y suis allée pour les vacances, prendre le départ avec mon père. La première course où on prend le départ les deux, donc c'était quand même symboliquement fort. J'y allais avec aucun objectif autre que de faire un ultra, d'engranger de l'expérience et surtout... de le faire un petit peu en dedans, en vue des mondiaux qui étaient là un mois et une semaine après, avec aussi la petite parole du sélectionneur, bon, le mieux, ça serait quand même que tu fasses le 80, mais en tout cas, si tu fais le long, tu gères, on te fait confiance, l'équipe te fait confiance, et il faut la faire en gestion, et surtout pas prendre des risques, donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, zéro, zéro, zéro stress au départ, mais et zéro attente, juste le fait de dérouler, dérouler un petit peu le parcours, de découvrir un petit peu toute la partie que je connaissais pas et de vivre un moment en introspection. J'étais excitée comme une puce et en fait, bah, la course, elle passe super bien avec absolument aucun accroc. C'est là où moi je pense que quand je prends les choses avec un petit peu de légèreté et sans des objectifs de chrono ou de alors résultat c'est rare hein. Franchement j'ai jamais ça en tête, mais en tout cas chrono ou la volonté en tout cas de me dépasser et là j'étais pas vraiment dans le dépassement au final, j'ai juste déroulé mon truc et pris du plaisir à boucler la boucle et j'ai essayé juste un petit peu d'accrocher le top 10 en fait, où en fait je commence à discuter à 5 km de l'arrivée avec un gars et j'avais raccroché le top 10, c'était mon petit challenge de la fin pour trouver quelque chose à faire quoi, et en fait je me fais doubler par l'italien alors que j'étais en train de discuter avec un gars du 60 km, on finit les deux. Et en fait, ma mère, en passant la ligne d'arrivée, elle me dit « Bah non, en fait, Mais non, tu fais pas 10, tu fais t'es 11. Et j'étais dégoûtée, mais je me dis, bah non, mais je l'ai pas vu. Qu'est-ce qui... Bon, bref, pas dégoûtée. Entre guillemets, c'était mon petit défi de la fin. Mais en fait, c'est une course qui est super bien passée et j'ai absolument pas usé de cartouches mentales, quoi. Enfin, ça a été facile.
Donc, pas d'attente, pas d'ambition particulière, freestyle total, et ça passe comme une lettre à la poste.
Ouais, la veille, on était au resto avec mes parents, des amis. On a bu une bière. C'était pas du tout... un peu comme la même échéance dont je t'ai parlé là, où c'était la course du village. Bon, en fait, c'était presque la course du village, quoi, alors que c'est le mute. Et ouais, c'est quand même... Pas d'attente sur de façon performance. Par contre, j'ai toujours des objectifs parce que, voilà, toute course, toute expérience t'apporte des choses. Là, il y avait sur le côté nutrition, sur le côté matériel, j'ai tiré pas mal d'expériences très positives, mais j'ai pas tiré d'expérience mentale. J'en ai tiré une, c'est que moins je me mets la pression et plus c'est facile à vivre et plus ça passe bien. Donc... Et rebelote au Mondiaux, hein. Je pars avec juste l'envie de me dépasser et puis de vivre les choses avec l'équipe. Mais alors avec aucune attente au niveau place, au niveau chrono, au niveau, puisque j'avais eu la blessure qui m'avait fait un peu redescendre de ma petite période de où ça passait très bien, des très bons championnats de France, un très beau mute. Une période où j'étais en super forme, bah voilà, je me déchire le mollet, je fais 2,7 cm de déchirure au niveau du solaire là, et en fait je prends le départ. Alors j'étais déjà tellement contente d'être au départ sur la fin de ma rémission de ma blessure et pouvoir vivre les choses avec l'équipe, que j'attendais rien d'autre que de pouvoir courir et puis mouiller le maillot, et comme quoi ça se passe bien aussi quand c'est voilà, malgré la grosse pression qu'on avait autour, hein. On est championne du monde en équipe, on savait que Blandine était quand même pas en grande forme, et à côté de ça, personnellement, je me mettais moins de pression au final, parce que il y avait eu des aléas en amont qui m'ont fait un petit peu douter et qui m'ont un petit peu bousculé, et ce qui a permis que je prenne le départ en étant plutôt déjà sereine sur le fait que l'objectif c'était de prendre le départ, donc déjà l'objectif était déjà atteint.
Et le résultat, quel est-il? Rappelle-le-moi juste pour rigoler un instant.
Ouais, je fais trois.
Est-ce que tu peux formuler complètement le résultat? Je fais telle place sur telle course.
Ouais, je fais troisième sur les championnats du monde, et puis on gagne avec les filles sur le long, on gagne à nouveau. Devant les Italiennes et les Allemandes, donc c'était... Ouais.
En étant légèrement blessé, en revenant de blessure, ouais. Et en n'ayant aucune attente. Alors,
personnel.
J'ajouterais, comme par hasard.
Ouais, mais c'est tellement vrai.
c'est terrible. Le retour de blessure, c'est un des meilleurs moments pour performer, parce que justement, on n'est pas en forme. Ouais. Et on est libéré de tout ça. Alors, on n'a peut-être pas le potentiel physique, physiologique maximal, mais par contre, on n'a rien qui va venir entraver la belle musique, si on peut dire.
Ouais,
on va pas entraver la belle musique des jambes. Et là, ça peut envoyer du pâté, quoi. J'adore cette expression. C'est tellement sale.
Je sens la suite, mais à plein nez.
Pourquoi? Alors, vas-y, vas-y. Manon Board, extra-lucide, cartomancienne à 16 heures perdues, diététicienne.
Projection, hein, votre honneur. Non, vraiment. Ouais, deux expériences de début d'année où je me dis, là, j'ai compris des choses. J'ai vraiment à travailler sur cette pression, sur ce qu'il y a au fond de moi, cette exigence. Avec le départ sur l'UTMB, mon deuxième UTMB, où l'année d'avant, bon voilà, juste catastrophique, pensée parasite, envahissement, risette, plus de jus à Courmayeur, enfin la fille rideau, quoi. cette année, je prépare le truc, mais je fais de l'altitude, je vais avec Oka, j'avais les crocs, je rêvais de cette course, j'y pensais toutes les 10 minutes, enfin, j'étais à 3000%. Je prends le départ en ayant travaillé sur le départ, en ayant travaillé avec mon prep là sur tout ce qui était visualisation pour faire redescendre un petit peu cette pression, ce stress ambiant, toute la pression aussi externe. Je prends le départ, je fais même quelques pas dedans sur la ligne de départ, enfin le truc, j'étais hyper bien. Et puis juste envie de vivre le truc et d'aller résoudre un petit peu, d'aller un petit peu plus loin, d'aller plus loin que Courmayeur en tout cas. Et puis de voir un petit peu ce que la prépa avait donné. J'étais juste curieuse aussi de voir mon état de forme. Et puis c'est vrai que c'était un sacré bon moment jusqu'à ce que je prenne une gamelle là où c'est un peu comme si. Ouais, c'est comme si j'avais appuyé sur un bouton, en fait, où y a un truc parfait, là, il y a une partition qui était très facile, et on appuie sur un bouton, et là, on me file la symphonie de Beethoven que j'ai jamais... où je comprends rien, où il y a 10 000 lignes, des notes que je connais pas, et là, j'ai pas compris, quoi. En l'espace de quelques secondes, je suis passée du paradis à l'enfer. J'ai pris une gamelle... Je me relève, je me rends compte que j'étais tombée, que j'avais eu un moment d'inattention. Voilà, la fille contemplative par excellence qui est partie un petit peu dans ses pensées. Et j'avais super mal. Et surtout, j'avais éclaté mon système d'hydratation en sachant que j'étais partie du ravito d'avant avec une seule flasque. Donc, j'avais double erreur là.
Alors, tu m'excuses, mais là, le chat est en train de faire un malaise. Donc, je vais aller lui ouvrir la porte pour qu'il aille dormir avec madame, parce que là, sinon, il va m'embêter. Ah. Alors... Je me suis débarrassé du chat. En revanche, alors merci pour toute cette explication, mais j'avais pas du tout l'intention de te poser la question là-dessus.
Ah
je
ouais
sais, mais je t'ai laissé parler parce que je suis un mec sympa et poli, tu vois,
très
plutôt bien éduqué, donc je laisse les filles parler. Mais on pourra en reparler un petit peu après. Moi, j'avais juste envie d'apporter, dans un premier temps, parce que en fait, ça, on va en parler, mais un tout petit peu après, j'avais envie d'apporter une précision parce que on parle du mental et comme tu l'as très très bien dit. Pour toi, c'est plutôt une gestion émotionnelle, une gestion de ton stress, etc. Et là, tu as entièrement raison. Parce que lorsque l'on parle du mental, on dit que ça se passe dans la tête, ce qui est vrai, globalement. Tout ça, c'est génial, mais c'est totalement flou et d'une certaine manière assez inexact. Et selon le dictionnaire Larousse, la définition du mot « mental », c'est « qui se passe exclusivement dans l'esprit, intérieurement, sans s'exprimer ou se manifester extérieurement ». Ce qui signifie, alors il y a aussi une petite ou une autre définition qui explique en partie la mauvaise réputation de la préparation mentale en France, c'est que c'est lié essentiellement à la maladie mentale, à la folie, et qu'en plus on trouve divers gourous qui prétendent avoir des méthodes révolutionnaires, alors que justement, et encore une fois tu l'as très bien expliqué à l'instant, c'est avant tout de la gestion des émotions, des pensées et la maîtrise de la concentration. Et une grande partie du travail à réaliser, c'est justement mettre des mots sur des actions. Pourquoi on tombe, pourquoi on a mal au ventre, pourquoi on est tendu du cul la veille d'une course, désolé pour l'expression vulgaire, ou des pensées que l'on appelle pensées parasites. Par exemple, moi mon problème, je suis stressé une veille de course, ou je me sens intimidé par l'ampleur de l'événement, je pourrais pleurer au départ. Je ne sais pas si ça te parle, ou si tu as déjà vécu quelque chose de similaire. Et le travail, ça va être de mettre des mots sur tout le bordel qu'on a dans notre tête, de manière rationnelle, de rationaliser tout ça, de le comprendre, de se l'approprier et de trouver des parades. Parce que notre plus bel ennemi, c'est nous-mêmes. On a cette capacité à la fois magnifique et terrifiante de nous sublimer, comme sur une course de village après 14 bières, et là tu voles au-dessus des cailloux, ou de nous anéantir et de nous faire passer la course la plus horrible de notre vie, alors que physiologiquement, on est à peu près au top de notre game. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, on parle de préparation physique, on parle de préparation mentale, et ce qui me sidère à pied ou à vélo, parce que moi je viens du vélo et de l'ultra à vélo, on consacre un temps infini à la préparation physique, à travailler des qualités physiologiques, la Z2, à travailler la PMA, à travailler le seuil, à travailler notre FTP, toutes ces saloperies, à étudier le terrain, à acheter du matos hors de prix, à se palucher sur les chaussures, les pneus, les vélos, les sacs à dos. Et quand il faut expliquer une réussite, c'est « putain, je te jure, j'étais pas bien, j'ai fini dans la tête, j'ai fini au mental. » Et par contre, quand ça se passe bien, eh ben, j'ai explosé dans la tête. Ou j'ai eu mal au ventre, ou c'est mon vélo, j'avais pas le bon truc. Et on est tous d'accord pour dire que c'est la tête qui décide, jambe ou pas jambe, matos au top ou pas, ça reste le domaine que personne ne travaille, ou en tout cas, on ne travaille pas suffisamment. Justement parce qu'on risque, c'est plus facile de se concentrer sur les watts, sur le matériel, du palpable, tu vois, on peut se raccrocher à ça. Par contre, aller explorer nos ténèbres, mettre des mots sur nos petits démons, eh ben c'est horrible, alors qu'on se sent tellement bien et on a tous nos petits démons. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah, c'est... Je pense que le mental, en fait, il y a quand même une dimension systémique. Enfin, on est quand même un corps entier et en fait, on ne peut pas dire que le mental, c'est que la tronche. Par contre, les émotions, les pensées, enfin, comme tu décris, ça peut prendre... Ça peut nous agripper et si on n'arrive pas, si on n'est pas en capacité de soit différer, soit avoir des systèmes de diffusion ou des systèmes de, comme tu l'as dit, hein, des parades, ce qui est complètement, on est sans cesse en train de faire des évitements, hein, quelque part, ces pensées ou des évitements à travers nos comportements, hein, nos actions, comme tu disais. Mais la dimension mentale, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus globale que ce qu'on imagine. Voilà, c'est dans la tête. C'est comme si à un moment donné, la tête, elle prenait le relais des jambes. Et je suis pas du tout en accord avec ça. Et d'ailleurs, les signaux corporels, si à un moment donné, on travaille aussi, ben, on le travaille notre mental dans la prépa physique. C'est qu'à un moment donné, quand c'est douloureux, comme ce matin où moi, je dois faire 3 heures de séance alors que j'ai fait... du fractionné hier et avant-hier et qu'en fait t'arrives ce matin, t'as des jambes mais t'es complètement rôti, tu t'écouterais, tu ferais canapé et puis t'y vas quand même, puis en fait ça se passe, tu fais une très belle séance, c'est quelque part quand même tu te dis, tu mets un petit peu le, tu coupes un petit coup ta connexion, voilà tes signaux que tu peux décaler aussi, hein, tes signaux de douleur, tes signaux corporels, et tu te dis bon bah voilà, je sais pourquoi je fais les choses, je mets du sens dans ce que je fais, mais à un moment donné, c'est quand même ton corps entier qui va aller faire cette séance écrite sur le papier. Donc, et par contre, les émotions, les pensées, elles pourraient te dire « Non mais attends, là, t'es fatigué, c'est ton blabla en fait, c'est ce que tu te racontes, t'es fatigué là, il n'y a pas de sens que tu t'ailles courir 3 heures ». Tu vas te blesser. Enfin, on se raconte, on s'auto-persuade, on s'auto-convainc. Et ce blabla-là, ben, à un moment donné, si on s'agrippe à ça, ben, au final, on ne fait pas grand-chose. Hein.
Tu sais que tu viens exactement de décrire ce qu'est c'est, en fait, la préparation mentale. Parce que là, tu parles de signaux, de « putain, j'ai mal aux jambes ». T'es fatiguée, ma grande, il faudrait te reposer. Oh, mon petit choupinou, faut aller se reposer maintenant. Mais la préparation mentale, c'est pas seulement quand on est au fin fond de la montagne, à moitié à poil sous la pluie.
Bien sûr.
C'est aussi quand ça va bien, quand on s'entraîne. C'est l'intensité avec laquelle, quand on est à 6 mois de la course, l'intensité avec laquelle on va rouler, on va courir ou qu'on prépare un examen. D'ailleurs, ça marche aussi pour passer un examen quand on est jeune. Et comme tu l'as très, très bien dit, c'est le sens que l'on met dans ce que l'on va faire et l'intensité et le sens que l'on va mettre dans chaque séance. Comment chaque petit pas de notre séance, comment chaque séance va nous rapprocher de notre objectif et comment ça va fonctionner. Et c'est ça aussi, la préparation mentale. C'est l'intensité qu'on va être capable de mettre, les sacrifices qu'on va être capable d'accepter, jusqu'où on est capable d'aller pour réaliser son rêve du TMB ou de je ne sais quelle course. Là, tu vois, nous, on est pour nos disciplines, on est en train de terminer l'Atlas Mountain Race. Et même pour les mecs de devant, je vois des, il y a de la pensée parasite. Ce matin, j'ai vu un article, enfin une déclaration sur l'arrivée de mon pote Thomas Bourri à l'Atlas Mountain Race, troisième de l'Atlas Mountain Race. Il met donc l'explication, l'organisation écrit, en gros, il a pensé à abandonner à mi-course, il a commencé à douter, il se demandait ce qui se faisait là malgré l'énorme préparation qu'il s'est mis. Et il avait un plan, il s'est tenu à son plan. Thomas, troisième. C'est exactement ça. Tu l'as dit, tu es peut-être pas tout à fait d'accord avec ce point-là, mais en réalité, dans ton désaccord et dans ce que tu as expliqué derrière, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis désolé. Voilà.
Pourquoi désolé ?
Bah parce que je t'explique que... Enfin, je t'explique pas, non, parce que je déteste ce mot où je déteste cette attitude de devoir expliquer. C'est juste de révéler un de tes nombreux paradoxes où tu dis que t'es pas d'accord avec un truc, que t'expliques pourquoi t'es pas d'accord, mais qu'en réalité, tu expliques exactement ce que c'est. Tu donnes la définition parfaite de ce qu'est la préparation mentale, dans le sens où c'est au quotidien une quête de sens, une intensité... Ignorer les signaux factices de notre esprit qui sont en fait uniquement des pensées parasites et les parades qui sont dans ce cas-là, ben oui, mais sauf que ma grande, dans 6 mois, tu as une course. Donc si tu restes sur ton canapé, c'est pas comme ça que tu vas gagner. Et pour terminer, je citerai Brad Gilbert, l'entraîneur de André Agassi, qui lui a dit une fois, tu veux gagner en Roland-Garros, mais tu ne gagneras Roland-Garros que si tu y participes.
Oui, à un moment donné, c'est...
À un moment donné, il faut quand même se bouger
le cul.
Il faut
agir, il faut être proactif. Et après, on entend beaucoup fracture mentale, mais enfin, il y a pas de fracture mentale tant qu'en fait, on ne s'est pas laissé envahir. C'est nos pensées un petit peu, alors sans être pensées obsessionnelles, mais c'est un peu nos pensées parasites qui font qu'à un moment donné, on décroche.
Ce n'est qu'une pensée parasite. La fracture du mental qui a été popularisée, ce n'est qu'une énorme pensée parasite à laquelle on n'a pas réussi à trouver la parade. Ce n'est que ça. Bon, écoute.
c'est pas simple.
Tu l'attendais ce moment, alors là je vais te dire, c'est parti. Que la fête commence, allumez le feu d'artifice. En 2022, alors, tac, 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 tac.
2022, ouais.
Alors, attends, on va rigoler. Alors, je cite, dans un article, je pense, de l'Est républicain, le journaliste a écrit « La jurassienne devra toutefois parvenir à gérer ses émotions qui, de son aveu, la submergent parfois. » On en revient à cette même idée. Et le contexte, devrait être plus favorable. « Les mondiaux, c'est un cadre plus fermé. Il y a, je pense, moins de monde et moins de public », explique-t-elle. « C'est plus calme et moins stressant que l'UTMB où j'ai été complètement dépassé. » En 2022, tu abandonnes l'UTMB et on peut lire « La tête et les jambes étaient bien là pour Manon Bohar, mais le ventre n'a pas voulu suivre. Après avoir pris un coup de froid dans une montée pendant la nuit, la trailleuse bisontine n'a pas pu s'alimenter correctement et donc dû abandonner au milieu de Courmayeur. » Et le moment tant redouté, Manon, tremble Manon Bohar, dans l'épisode spécial UTMB du podcast Course Épique, tu expliques qu'on t'annonce être quatrième au premier avito de mémoire. Et là, si tu me racontais un petit peu cet UTMB 2022, du départ, la ligne, et le moment où on te dit « Hey Manon, t'es quatrième !» Alors, je sais pas si on te l'a dit comme ça, mais en tout cas, tu apprends que tu es quatrième. De la ligne de départ à ce « Manon, tu es quatrième », est-ce que tu peux me le raconter, s'il te plaît?
Alors, ligne de départ 2022, hein, parce que j'avais l'impression d'être au-dessus de moi et de me voir en fait avancer autour des journalistes avec les autres coureurs pour aller choper le sas élite. C'est quand même assez dingue. Enfin, j'étais en train de me dire, mais c'est vraiment moi qui vais là, c'est moi qui vais prendre le départ de l'UTMB. Enfin, j'étais en train de me raconter une histoire à moi-même. Mon corps était là, mais mon esprit était partout, dans la foule, dans les cris. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais je peux pas dire que c'était. Je me suis pas forcément sentie malgré tout anxieuse en fait. J'étais contemplative. Je découvrais. J'ai l'impression de rêver en fait. Clairement, ce départ là, c'était une fête incroyable et j'avais jamais vécu ça. Et cette année, du coup, j'étais préparée à ça, donc c'était beaucoup plus simple. Mais avec Julien Chaurier, Audrey, alors Audrey qui était mais stressée et qui pleurait derrière la ligne de départ, là, je me suis dit non, ne la regarde pas parce que là, là, tu vas faire pareil, quoi. Hugo Ferrari et puis casquette verte Alex derrière qui racontait des blagues, donc j'ai essayé de me dire allez raccroche-toi un peu à ce qu'ils racontent, rigole un coup avec eux, pète un coup, ça ira mieux, pour revenir un petit peu dans ton corps là, parce que là t'es en train de ça va partir et en fait tu vas pas courir quoi, enfin, donc le départ un peu particulier. Oui, il y avait du stress, mais il y avait surtout j'avais surtout l'impression de pas être préparée à ça. Enfin, là, clairement, je me suis dit, là, t'as loupé une case, t'es ok, t'as les jambes, ok, t'es en forme, t'as dormi, t'es prête, mais t'es pas prête à vivre ça, quoi. On n'est jamais prêt à se lancer dans une foule comme ça, puis à se dire, bon. Et en fait, je me suis dit, non, mais là, c'est que le départ, ça va se calmer. Et en fait, c'était ça jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, où voilà, les gens criaient. Il y avait des gens, un public pendant 40 bornes, en gros, qui gueule ton nom, le nom des autres. Et toi, t'es en train de courir, mais en fait, moi, j'étais spectatrice. J'observais ce qui se passait autour. J'étais pas du tout dans mon allure, dans la course, en fait. Hein. J'étais, voilà, bref. Donc on va dire qu'un démarrage, je suis même incapable de dire si je l'ai bien géré ou pas, parce qu'en fait j'étais tout simplement j'étais pas dans mon corps quoi, pas dans mon allure. Hein, j'ai suivi Audrey, voilà, j'ai essayé de discuter un peu avec elle pour à un moment donné me raccrocher à rentrer dans ce corps là, et en fait j'y suis pas rentrée du tout quoi. Et si, je suis rentrée dans la course au moment où j'arrive au Contamine, où je retrouve mon entraîneur. Et là, il voyait bien, lui, il était hyper stressé, je le voyais bien. Et là, par contre, j'entends le speaker qui m'annonce, qui annonce Audrey et moi, 3 et 4, quoi. Et là, c'est comme si on me mettait une claque, je me réveille et on me dit, et je le regarde, et je lui dis, mais c'est une blague, enfin, je suis 4. Il me dit, ouais, t'es... Mais t'as l'air bien, toi. Il voyait bien qu'il fallait pas que j'entende ça, quoi. Et là, je me suis dit, mais je suis pas venue là. Pourquoi, quoi? Enfin, j'étais pas prête aussi je m'attendais pas à ça, en fait. Et là, je pense que j'ai un petit peu saboté mon truc. Et la suite a été hyper compliquée parce que bon oui le mal de bide mais c'est simple hein, de toute façon je me suis pas alimentée depuis le début parce que j'étais pas dans moi quoi, je me suis pas habillée, j'ai rien fait quoi, j'ai absolument rien fait de ce qu'il fallait faire, j'étais absolument pas maître de mes actes comme t'as dit tout à l'heure, j'étais complètement dans ma tête, dans mes pensées où je voulais presque saboter ma course, j'étais presque soulagée de me dire il va falloir trouver une excuse à un moment donné. Enfin, je sais pas. C'était dingue. Ouais, bref, j'étais pas du tout préparée à ce genre de choses. Émotionnellement, en tout cas. Et oui, la tête et les jambes. Bah, la tête, en fait, c'était juste, j'étais bien. C'était une période où psychologiquement, j'étais bien. J'avais envie. Mais être bien dans sa tête, mais par contre, se laisser submerger comme ça par les émotions et un espèce de syndrome de l'imposteur, là où je me disais, non, mais c'est pas ta place, elle n'est pas là, en fait. C'est comme si j'avais envie d'attendre la 10e ou la 15e place et puis de repartir avec eux et j'en serais probablement redescendue d'un cran. Mais non, j'étais vraiment pas prête à... J'étais pas prête à jouer devant, et d'ailleurs c'est ce qui me fait arrêter plus loin, je pense. J'étais absolument pas en capacité de continuer énergétiquement, j'avais vraiment plus de jus, j'avais émotionnellement tout donné sur la première partie, Donc ouais, c'est assez. Je sais, j'ai même un peu du mal à mettre des mots hein, là-dessus. Hein, c'est sûr que pas simple.
Je t'ai jamais dit que ça allait être simple. Et l'année d'après, ce que je me permets quand même de pointer un léger le 10 000e paradoxe de Manon Board, c'est Manon gagne des grandes courses, mais Manon a du mal sur l'UTMB, sur des distances que tu pourrais maîtriser. Avec un niveau de difficulté techniquement, voilà, le problème, il n'est pas là, quoi.
Ouais.
La montagne, tu connais, mais comment se fait-il que sur ce week-end-là, c'est pas si facile que ça, quand même.
Non, alors, bon, malheureusement, l'année d'après, l'année dernière, c'était pas du tout pareil. Et là, je pense qu'il y a quand même eu de multiples aléas au même, enfin sur une même période qui fait que j'ai lâché, j'ai stoppé, mais de toute façon je pense que j'ai pris la bonne décision, je regrette pas. Par contre, rien à voir. Enfin là, pour le coup, je ne doutais pas de ma préparation, j'étais prête à prendre le départ et à prendre le départ en connaissance de cause avec tout ce que j'avais vécu l'année d'avant sur le côté émotionnel. J'avais préparé ça aussi avec Thibaut, là, mon préparateur mental. Et j'étais prête aussi à laisser passer quelques émotions pour kiffer le truc. Exactement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que voir mes proches stressés, ça faisait partie du folklore et je l'avais prévu. Et j'avais visualisé aussi stress, cette pression ambiante, et je m'en servais aussi pour agir, voilà, pour agir quand il faut, faire le job au niveau de la nutrition, pour rester proactif et pour rester maître de sa course, et surtout pour prendre du plaisir, parce que aussi l'UTMB, si tu peux pas, si à un moment donné tu veux pas faire la fête et tu vas pas au sommet mondial du trail, tu vas pas vivre des parce que les émotions elles viennent de partout, hein. Enfin c'est de l'excitation, il y a du stress sur les ravitaux, il y a du plaisir, enfin voilà, ça rigole, et puis ça peut être aussi très très sérieux, enfin il y a de la place pour tout, et j'étais prête à partir avec ce mélange émotionnel, mais encore une fois à pouvoir un petit peu c'est comme si je laissais passer un petit peu, si je filtrais en fait. Et je en filtrant, ça me permet aussi de pas qu'il y ait de trop plein et de pouvoir aussi se servir de certaines émotions pour si ça va bien, ben ça va bien. Et puis on va essayer de faire durer ce plaisir, ce moment qui se passe bien, en se raccrochant à ce que je connais, à ce que je sais faire. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que ça s'est extrêmement bien passé jusqu'à ce que je repars du ravito de Courmayeur où je me rends compte que erreur de ravitaillement, parce que là moi j'étais dans mes actions et j'étais à un moment donné, je pense peut-être un peu avec les journalistes à répondre à Fred, parce que Fred c'est un copain, et en fait je repars avec une seule flasque parce que voilà, mon mari, j'avais posé mes flasques sur une des flasques qu'il était censé me donner, donc je repars avec une flasque. Et je me rends compte à Berton, donc autant dire. Puis là, je me dis, bon, bah allez, c'est pas un souci. T'as ce qu'il faut, en fait, ça va le faire. T'as une flasque, et c'est pas un souci, tu gères comme ça. Comme ça, je m'étais refait un plan un peu différent. Hop, imprévu, mais y a pas de problème. Et puis là, cette gamelle monumentale où je m'écrase par terre, je tape le rebord du ressentier pour surtout pas tomber dans le trou, et je m'écrase, et j'écrase mon matos de devant, donc je pète ma frontale, et puis je pète ma flasque. Et là, en fait, je pense que j'ai vraiment eu une super réaction, parce que là, il fallait agir. J'ai commencé à essayer de rafistoler ma flasque avec mon élasto, j'ai réfléchi, je me suis arrêtée, je me suis dit, attends, t'as qu'une flasque, là, t'en as plus, t'es obligée, de toute façon, de faire 40 km pour récupérer au moins, enfin 45 exactement, là, pour récupérer une flasque, donc autant te dire que c'était au moins 6 heures de course. Sans eau, c'est pas possible. Et en plus de ça, l'assistance à la foulie, je pouvais pas récupérer une flasque à la foulie, parce que peut-être si ça aurait été le cas, je serais reparti en me disant, bon, je boirai dans un ruisseau où je me débrouillerai, où je bois qu'au ravito, puis j'essaie j'essaie de gérer avec ce petit. Mais là, c'était bien plus qu'à la folie, c'était à Champé qu'il fallait que je récupère du. Donc je me suis arrêtée. Et là, j'ai attendu en fait qu'un coureur, que des coureurs passent pour demander s'il n'y avait pas une flasque en rab. En fait, j'étais là-dessus. Mon plan d'action, c'était retrouver une flasque. Et en fait, mon genou, sur le coup, j'avais super mal. J'avais la douleur qui était présente, qui me faisait dire que bah, voilà, j'avais fait une connerie. Et puis que... Mais ça ne m'a pas du tout inquiété sur le coup. Ce n'est pas quelque chose qui a pris. Et puis, j'ai attendu quand même 25 minutes avant de trouver une flasque. Je repars. Et là, clairement le genou, là, dans la descente, je me suis dit, oh putain, c'était pas du tout agréable, pas du tout ce qu'il en était au moment où je suis tombée. Enfin, la douleur était quand même, avait pris quand même une autre ampleur. J'étais un peu plus froide. Bref, c'était la descente que je reprenais. J'essayais de courir et en fait j'arrive au ravito déçue et un peu énervée parce que bah, forcément hein, il t'arrive 30 000 choses en même temps. Là je prends le temps de me ravitailler en me disant bon bah là de toute façon c'est pas si tu prends 3 minutes de plus c'est pas le mais il faut que tu te de toute façon faut que tu te ravitailles correctement, t'as qu'une flasque d'eau et tu peux pas remplir comme ce qui est prévu. Et je repars avec Katharina et j'étais repartie dans la course, même si j'avais ces émotions, cette frustration qui était présente. Et je me suis accrochée. Et en fait, dans les descentes, dans les montées, j'arrivais à marcher, boitiller. Et j'avançais quand même un petit peu. Par contre, dans la descente, je pouvais plus du tout courir. Et jusqu'à, en fait, arriver à 2 km de foulie où je commençais à choper en fait, des douleurs à d'autres endroits. Et ça devenait... je me suis dit, ça devient compliqué... Mais c'est surtout, ça devient compliqué par rapport à l'instant T ou tech, où il reste en fait, il reste plus de 50 kilos, quoi. Il reste 50 bornes. Et je voyais pas un peu comment je pouvais, passer encore comment je pouvais continuer dans une optique quand même de performance, mais aussi de performance à finir, hein, au final. Parce que moi, l'objectif, c'était de faire le tour. Et là, je me suis dit, de toute façon, là, tu finiras pas, en fait. Tu finiras pas, ou en tout cas, tu vas finir en randonnée ou complètement blessé, quoi. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. Et je pense que encore aujourd'hui, en ayant analysé un peu, j'ai bien fait d'arrêter parce que quand j'ai fait le point avec mon médecin, bon, bah voilà, j'avais une entorse avec le ménisque qui avait pris un coup. Je me suis fracturée deux côtes. Et puis, j'avais une petite. J'avais une petite déchirure à l'arrière du quadri là. Bon bref, donc c'était une blessure quoi. Mais quand même,
comme on dit, t'en as pris une bonne.
Et par contre, ce que je peux raconter par contre là, c'est que j'ai pris la décision d'arrêter. C'était une décision claire. Mais le lendemain, j'ai tellement culpabilisé que j'étais incapable. En fait, de savoir, et en fait, on me disait, mais t'es blessée et tout. Puis je disais, mais oui, mais ça se trouve, c'est rien. Encore une fois, j'étais tellement déçue parce que c'était une course que j'attendais tellement avec tellement d'impatience. Je m'étais tellement fait le fil dans ma tête que là, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je rêvais, quoi. Enfin, c'était pas possible que ça m'arrive. J'avais pas visualisé et prévu cet imprévu-là. La blessure, mais voilà. Donc compliqué de rebondir après ça.
Est-ce que tu as réfléchi à ce moment au ravito où tu prends pas les deux flasques de ton mari, tu n'en prends qu'une et que tu te laisses que tu laisses un intrus, entre guillemets un intrus, hein. Fred, rentrer dans ton univers à ce moment-là, forcer un petit peu les barricades, forcer un petit peu les fenêtres. Et forcer un petit peu les murailles de ta concentration. Est-ce que tu as pensé à ce moment-là?
Ouais, j'y ai repensé. Quand je montais le col Ferret, j'étais en train déjà d'analyser où c'est qu'il y avait eu des erreurs. Parce que je m'en voulais, mais je m'en voulais pas qu'à moi-même. Je peux le dire.
La Saint-Valentin, c'était hier. Voilà, tu peux dire t'en bon, veux à ton mari. Vas-y, balance.
Il était une nocturne hier, il n'était pas là. Et c'est. Voilà, il n'y a pas de. On fera la Saint-Valentin ce soir, mais je l'ai verbalisé, hein, je lui ai dit hein, que je, là, pour le coup, la confiance, et je lui ai même dit, ça a été compliqué, hein, parce que je lui ai dit clairement, tu as deux trucs à penser qui sont hyper importants, c'était la batterie de la frontale et mes flasques, et tu n'es pas capable, tu n'as pas été capable de... Et non, mais c'était dur, hein, c'est là où je suis rigide et je peux être exigeante avec moi-même et je suis exigeante aussi avec les autres. Hein. C'était tellement dans le feu dans ma tête, je lui ai dit ça. Je lui dis, t'as pas été capable de penser à me... T'aurais dû me courir après, t'aurais dû... Et en fait, moi, je me serais rendu compte de ça 10 minutes après le ravito. Je serais reparti en arrière. Mais en fait, je me suis rendu compte de ça quand ma flasque, elle était vide, quoi. Et j'étais à Berton. Et là, si tu veux, j'en ai pas... Sur le coup, je me suis dit, putain, mais quelle connerie! Et en fait, j'en ai presque... Enfin, pas rigolé, mais j'étais tellement bien à ce moment-là que... Je me suis dit, bon, c'est quand même... je ne sais pas où est la faute, mais... parce que là, pour le coup, je pensais à moi. Et puis au fait qu'on avait loupé un truc au ravito, mais je n'en ai pas voulu parce qu'en fait, ça n'avait pas d'incidence. Par contre, quand j'ai éclaté ma flasque, je me suis dit, mais en fait, là, c'est juste un scénario qui est improbable, quoi. La flasque, elle est inutilisable.
T'aurais certainement cassé.
Et c'était ta seule.
T'aurais certainement explosé les deux si t'en avais eu deux. Si t'en avais alors, eu 15, t'aurais juste fait un petit ruisseau sur le chemin.
Non, mais vu la gamelle que je prends, je pense que j'en aurais pété qu'une parce qu'en fait, elle était pleine, ma flasque. Et c'est pour ça qu'elle a pété, je pense.
Bien sûr.
Mais.
Bon. Tu m'as dit, dans le col de la Foulie, tu pensais déjà. Alors, moi, je suis pas assez. Je maîtrise pas assez bien le parcours. Dans la Foulie, tu pensais déjà à ce qui avait merdé. Ça, c'est avant ou après?
Dans la montée du col Ferret, juste après Arnouva.
Voilà, dans la montée du col Ferret. Ouais. C'était après.
Déjà
donc.
En train d'analyser.
Donc, t'étais pas ici et maintenant. T'étais dans l'après, t'étais dans l'avant, mais t'étais pas ici et maintenant au volant.
Il y a un autre moment dans la course qui a été un petit peu particulier et j'ai très bien géré, c'est qu'en fait, quand je passe au Chapieux, j'avais demandé à ma mère qu'elle me donne des infos. Alors, elle a été exceptionnelle, elle m'a donné... Parce que ma mère, elle a ce trop-plein émotionnel, hein, comme... voilà. Et là, elle a été... Elle s'est pas du tout laissée envahir par le truc. Je connaissais ma place, donc je me suis dit... Et je parlais de ma place dans ma tête. Je me disais pas la place, mais je me disais bon là, voilà, parce que Blandine fait que elle a dû faire un petit demi-tour et tout, et j'attendais en fait que Blandine me double. Et elle me doublait pas. Et là, je me dis mais attends, mais c'est du délire. Qu'est-ce qui fait que j'aurais bien voulu faire un bout de nuit avec elle, mais elle arrivait pas. Et je me dis mais c'est bref, c'est un sketch. Mais je faisais confiance à mes sensations et à mon plan de course. Et en fait, bon, ça se passait bien. Et ma mère me donne les infos qu'elle a à me donner et tout, je repars. Et par contre, c'est mon père que je croise sur un rebord de chemin et il me dit, non mais, il me dit, là, il était complètement ahuri et il me dit, mais c'est incroyable, mais tu fais une super course, t'es super bien là, je te vois, t'as l'air bien. Ludo, il est juste devant et j'ai pas vu Courtenay. Et là, il me laisse penser que, et là, je lui dis, non papa, tu fais erreur. Il dit, mais je te jure, je ne l'ai pas vu. Et là, il y a eu la pensée de... Attends, c'est quoi le délire? Tu peux pas, c'est impossible que tu ne peux pas être devant.
Le démon de qu'est-ce que je fous là?
Ouais,
j'ai pas
là,
le droit
il y a
d'être
eu
là.
Qu'est-ce que je
j'ai
fous
pas
là?
Le démon de j'ai pas le droit de battre Courtenay de Walter.
Ah bah là, c'était juste... Et là, la pensée, j'ai vite pris un balai dans ma tête et j'ai dit, alors là, hop, on next. Et j'ai dit à mon père, tu délires.
Tu fermes
partie.
Ta gueule.
Je me suis dit, j'espère qu'il va pas me faire un petit bout et me dire je ne sais quoi. Je suis vite partie, je voulais rentrer dans ma bulle et ça s'est très bien passé. Comme quoi, je suis capable de faire ce switch. Mmh. Mais dans le col Ferret, je me racontais des histoires, j'analysais, j'en voulais à la terre entière. Je m'en voulais à moi-même, ça c'était...
Ah oh oui, coup, tout allait bien jusqu'à la chute.
Bah oui.
C'est vrai que t'étais tellement présente dans le col Ferret à ce que tu faisais, concentrée sur ta foulée, ton plan... Effectivement, t'as très très bien géré ta chute, hein. Paraît-il, en lice pour le Guinness Book des plus belles gamelles en course.
Ah, j'en prends des belles, hein, des gamelles quand même, mais je me fais jamais vraiment mal.
Manon, pour conclure, est-ce que tu es une bonne élève ou plutôt une mauvaise élève? Parce que tu as noté que le podcast s'appelle Les mauvais élèves. Je t'avais expliqué pourquoi. Est-ce que tu es plutôt une bonne élève ou est-ce que tu es quand même plutôt une mauvaise élève? Est-ce que tu es une rebelle qui ose dire non, qui ose faire son chemin? Ou est-ce qu'au contraire... Alors, Est-ce que tu es une mauvaise élève?
Alors, moi, je pense que je suis quand même une bonne élève, dans le sens où je te dis, j'ai quand même cette rigidité. Enfin, cette rigidité, quand il y a le plan qui est écrit, faut faire ce qui est écrit. À l'école, je faisais ce qu'il fallait. Et à l'entraînement, je fais ce qu'il faut. J'ai même tendance des fois à en faire un petit peu plus. Alors maintenant, j'apprends aussi à faire pas plus. Et puis même s'il faut faire différemment, ça commence à être un petit peu le cas. C'est de la communication, mais c'est aussi arriver à percevoir ces fameux signaux dont on parlait avant. Mais je suis quand même plutôt bon élève et à suivre ce qui est dit, dans le sens où quand je veux me mettre les moyens et quand je veux m'entourer des personnes, par exemple si je m'entoure d'un entraîneur, si je m'entoure d'un médecin, et que m'on donne des conseils ou qu'on me dit les choses qui paraissent importantes que je fasse ou que j'opère ou que je réfléchisse, je suis quand même dans l'écoute des gens que je côtoie ou je demande conseil parce que j'ai confiance. Après, j'ai quand même un côté où je me remets énormément en question et où je peux aussi remettre en question un petit peu. Voilà, donc je pense que j'ai un côté un peu rébellion au fond de moi, mais je suis quand même particulièrement carré et bon élève. Voilà, où j'apprends par expérience de... sortir un petit peu des sentiers battus si on veut rester dans le trail, mais voilà, je suis quand même plutôt bon élève, je pense.
Habituellement, avec les athlètes un petit peu plus qui ont aussi une pratique du vélo, je leur pose la question quand est-ce que tu viens nous embêter en ultra à vélo? Donc toi, je vais pas te la poser tout de suite parce que visiblement c'est pas au programme, mais quand je vais venir dans les Vosges au mois de mai,
ouais.
Est-ce qu'on s'organise une sortie avec toi, ton père? Est-ce qu'il y a moyen d'organiser quelque chose? C'est pas si loin que ça, quand même.
Ah, alors, il y a quand même... c'est quand même le massif des Vosges et le massif du Jura. Il y a quand même...
Mais... Pour moi, c'est le même endroit. Hein. Les Vosges, l'Alsace, pour moi, c'est la même racaille.
Alors, si tu parles des Vosges, limite territoire de Belfort et tout, ça se fait. Hein. Enfin, on peut clairement... Enfin, moi, depuis Besançon, c'est pas si loin. Après ça dépend aussi de l'organisation, tu peux aussi venir du côté mais de vers chez mes parents, où là il y a quand même aussi ils sont au bout du massif jurassien, il y a un super terrain de jeu, ça s'organise, mais nous avec grand plaisir, enfin nous on adore échanger et si un jour tu as l'occasion de venir à l'auberge, c'est
est-ce qu'il y a des animaux à l'auberge? C'est ça qui m'intéresse.
Des animaux, bah il y a Paco le chien, l'ultra chien. Le mien, j'essaie de le convertir à l'ultra, mais c'est encore un peu tôt. Mais on a deux border collies en fait, l'un et l'autre.
C'est bon, je viens.
Et bon. Sinon, il n'y a pas d'autres animaux. Mais il y a surtout des moments autour d'un apéritif, autour d'un bon plat de rösti conviviaux, où il y a beaucoup d'anecdotes de trade qui sortent.
Un plat de quoi?
De
rösti. Désolé, hein. C'est quoi?
Des rösti, c'est des pommes de terre sautées qui sont revenues dans une poêle avec des lardons et des oignons. C'est la spécialité du
coin.
Franche-Comté. Enfin, c'est la spécialité de vers chez mes parents, de Morteau, avec une bonne saucisse de Morteau ou du jambon. Enfin, je te dis ça, mais moi, je mange pas de viande. Hein, mais en tout cas, les clients et les montagnards, après une belle sortie, une belle journée en montagne, adorent ça. Et on adore cette ambiance-là, autant... pendant les séances ou pendant l'effort qu'après l'effort, le côté un petit peu se retrouver, boire un coup et puis discuter à point d'heure d'expériences de ce type, à se remettre en question, à pas être d'accord, à créer des débats, ça c'est top.
Et d'ailleurs,
on organise des stages et souvent c'est aussi des belles rencontres qu'on fait avec les stagiaires. Au sein de l'auberge de mes parents, donc au plaisir de t'y voir et de partager une sortie.
Eh bien,
pas loin.
J'emmènerai mes enfants. La question sur les animaux, c'est uniquement pour amuser mes enfants. Ah. Et s'il y a deux border collies, eh ben, sache qu'on viendra uniquement pour les border collies, car c'est notre chien préféré.
Ah bah parfait.
On adore ça. Et puis évidemment, s'il y a de la saucisse, alors là, moi j'en connais deux qui vont être aux anges.
Bon, bah
la
en
saucisse,
fait,
c'est une culture.
Je tapote avec tout ça, donc parfait.
Eh bien, on viendra avec femme et enfant et tout se passera très bien. Manon, je te remercie. Je vais couper l'enregistrement. Merci pour le temps passé. Bon, on va terminer tous les deux en off, mais en tout cas, merci pour le temps passé et toutes ces explications aussi précises qu'intéressantes. Et j'espère que ça va captiver toutes celles et ceux qui vont écouter ça. Merci beaucoup, Manon.
Merci à toi de l'invitation.